about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Leduo et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Pascal Bénard. Réalisation signée Assia Khalid. Ce soir, Daniel Martin et Laurent Nunez se font face à notre affiche « L'ordre du jour » d'Éric Vuillard chez Actes Sud, dans ce jardin qu'on aimait de Pascal Quignard chez Grasset et « La personne et le sacré » de Simone Veil en poche chez Rivage. Vers 21h20, Xavier Martinet nous entraînera dans le petit salon pour parler des détecteurs de faux pas littéraires. Et bien sûr, encore des cadeaux gagnés grâce au jeu de dispute ce soir, des invitations pour le spectacle Boom Buddies de Doris Ulich. Spectacle et place pour ce spectacle à gagner vendredi 12 mai à 21h au Nouveau Théâtre de Montreuil. Ce sont les rencontres internationales chorégraphiques de Seine-Saint-Denis. Deux chouchous de nos deux critiques ce soir au programme. Nous parlerons tout à l'heure de Pascal Quignard, chouchou de Laurent Nunez. On commence avec Éric Vuillard, chouchou de Daniel Martin. Dernière preuve en date, il a reçu le prix Vialat que vous organisez. Je ne prétends pas ici que vous vous substituez au juré, bien sûr, mais j'imagine que vous n'avez pas œuvré contre ce choix.
Non, je suis simplement le secrétaire.
Oui, ouais, c'est ça. Ça veut dire que c'est celui qui fait le prix, en fait. Je traduis pour nos auditrices et auditeurs. Donc, ce prix que je trouve particulièrement judicieux, comme d'ailleurs pour l'ensemble des prix Vialat. Ce n'est pas pour flatter le secrétaire, mais c'est un fait. Bon. On a quand même quelques goûts communs, faut bien que ça arrive. En ce qui concerne Éric Vuillard, moi je tiens effectivement l'auteur notamment du faramineux Conquistador pour un des écrivains les plus ambitieux et passionnants de notre époque. Il revient déjà, après 14 juillet qui était sorti à la rentrée dite de septembre, il revient cette fois avec L'ordre du jour, toujours chez Actes Sud. Étaient 24 près des arbres morts de la rive, 24 pardessus noirs, marrons ou cognac, 24 paires d'épaules rembourrées de laine, 24 costumes trois pièces et le même nombre de pantalons à pinces avec un large ourlet. Les ombres pénétrèrent le grand vestibule du palais du président de l'Assemblée, mais bientôt, il n'y aura plus d'Assemblée, il n'y aura plus de président, et dans quelques années, il n'y aura même plus de Parlement, seulement un amas de décombres fumants. Pour le moment, on dévisse 24 chapeaux de feutre et l'on découvre 24 crânes chauves ou des couronnes de cheveux blancs. On se serre dignement la main avant de monter sur scène. Les vénérables patriciens sont là dans le grand vestibule. Ils échangent des propos badins, respectables. On croirait assister aux prémices un peu guindées d'une garden party. Les 24 silhouettes franchirent consciencieusement une première volée de marche, puis avalèrent un à un les degrés de l'escadrin, en s'arrêtant parfois pour ne pas surmener leur vieux cœur, et la main cramponnée à la tringle de cuivre, ils grimpèrent, les yeux mi-clos, sans admirer ni l'élégant balustre, ni les voûtes, comme sur un tas d'invisibles feuilles mortes. On les guida par la petite entrée vers la droite, et là, après quelques pas sur le sol en damier, ils escaladèrent la trentaine de marches qui mènent au deuxième étage. J'ignore qui était le premier de cordée, et peu importe au fond, puisque les 24 durent faire exactement la même chose, suivre le même chemin, tourner à droite autour de la cage d'escalier, et enfin, sur leur gauche, les portes battantes étant grandes ouvertes, ils étaient entrés dans le salon. La littérature permet tout, dit-on. Je pourrais donc les faire tourner à l'infini dans l'escalier de Penrose, jamais ils ne pourraient plus descendre ni monter, ils feraient toujours en même temps l'un et l'autre. Et en réalité, c'est un peu l'effet que nous font les livres. Le temps des mots, compact ou liquide, impénétrable ou touffu, dense, étiré, granuleux, pétrifie les mouvements, méduse. Nos personnages sont dans le palais pour toujours, comme dans un château ensorcelé. Les voici foudroyés dès l'entrée, lapidifiés, transis. Les portes sont en même temps ouvertes et fermées, les impostes usées, arrachées, détruites ou repeintes. La cage d'escalier brille, mais elle est vide. Le lustre scintille, mais il est mort. Nous sommes à la fois partout dans le temps. Je m'arrête là, Daniel Martin. C'est pas tout à fait le début, mais presque, de cet ordre du jour. Première question que doivent se poser celles et ceux qui nous écoutent. Mais qui sont ces 24 ?
Et ces 24, ce sont les grands industriels allemands qui, juste après l'élection d'Hitler, se rendent à une invitation. Et lors de cette séance, Hitler va commencer par les faire attendre un bon petit moment pour leur prouver qui est le maître. Et assez grossièrement, va leur demander de sortir leur carnet de chèques parce qu'il a besoin d'eux pour faire ses réformes. Et tous ces grands industriels allemands vont faire leur chèque et profiter de ce régime. Et si on veut parler directement du livre, je trouve que le livre se développe un peu comme un triptyque, c'est-à-dire qu'on a ce premier volet avec cette séance, et le dernier volet, on retrouve ces mêmes industriels, et en fait, on fait plutôt le bilan, là. C'est-à-dire qu'on se rend compte que toute cette industrie, après avoir financé Hitler dans ses actions, a profité beaucoup de la main-d'œuvre, en particulier celle des camps de concentration. Et là, donc, c'est très documenté, puisque chaque industriel est relié à tel camp ou tel camp, en fonction de la proximité de ses usines, etc., etc. Et le panneau central, c'est assez curieusement l'Anschluss. Alors pourquoi l'Anschluss ? Parce que Eric Vuillard montre, enfin ce qu'on sait si on est un peu attentif à l'histoire, c'est que l'Autriche attend d'être envahie, l'Autriche est impatiente de cette invasion. Et en fait, on est encore dans le respect des formes diplomatiques. Donc tout ça est très difficile parce que il faut convaincre absolument tout le monde de donner son accord. Tout ça est un peu lent, long. Il y a des personnes qui font des manières, qui s'opposent, donc ça agace tout le monde. Et puis finalement, on dit, hop, l'armée va envahir. Et il se trouve que là, il y a une énorme panne mécanique et qu'en fait, plutôt que d'envahir, il y a un immense embouteillage et on a toujours les Autrichiens avec les petits drapeaux nazis qui attendent dans les rues de Vienne et partout et on ne voit personne arriver. Et Eric Guillard explique que, en fait, on a gardé une toute autre image de cette Anschluss parce que c'est l'image, la télévision, enfin, peut-être pas la télévision, mais le cinéma, l'image, la photographie, les archives sonores qui ont transformé ça en...
Cette arrivée triomphale
et on oublie tout ça. Alors, effectivement, on a ces industriels, on a cette panne mécanique. Donc, tout ça permet à Eric Vuillard de dérouler un couplet qui est assez intéressant en disant, en gros, que le capital n'a pas d'état d'âme, peut être associé au pire. Et puis, voilà, ça peut causer des dégâts, parce que cette panne mécanique, effectivement, on sait pourquoi elle intervient, etc. Et donc, en conclusion, à la fin de ce triptyque, il y a cette histoire qui est assez intéressante, qui est effectivement l'effacement de ce passé dans toutes ces entreprises. Parce que ces entreprises existent toujours, ces noms existent toujours, et on a cet effacement complet, comme ça. Donc je trouve que, alors c'est développé dans la prose de Vullière, c'est-à-dire c'est une prose, on peut pas dire que ça soit très séduisant, c'est quelque chose de un peu âpre.
Moi, ça me séduit beaucoup. Hein.
C'est
vous trouvez c'est... Enfin, l'âpreté à sa séduction.
Ah, mais tout à fait.
Bon,
mais,
d'accord.
Je veux dire, c'est pas narré, voilà, d'une manière, c'est pas enjolivé. Enfin, on est sur le document, on est sur l'écriture brute.
C'est bizarre parce que je partage pas. Alors, l'écriture brute, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est de la littérature, en l'occurrence, c'est régulière. On va peut-être débattre là-dessus dans un instant, mais entendre Laurent Nunez, peut-être d'abord.
Oui, alors c'est en effet un livre. J'ai l'impression qu'on lit toujours les bons livres au bon moment. C'est un livre qui tombe bien parce qu'il montre justement comment, tout d'un coup, parce que Vullard appelle un grand coup de bluff. L'extrémisme arrive au pouvoir et il raconte ça à travers différentes réunions ils sont tous chauves, voilà, avec une couronne de cheveux blancs, il dit, de tous ces hommes très sérieux, costard, cravate, redingote, qui essayent de tenir bon face à un Hitler hurlant et qui tout d'un coup doivent obéir simplement, mais on peut lire ce livre pour cette raison-là, pour comprendre à quel point l'extrémisme arrive, mais ce serait presque la moins bonne raison de lire ce livre. C'est un livre, c'est un vrai livre d'écrivain. C'est justement un livre mais je rejoins Daniel Martin sur l'âpreté, mais c'est pas l'âpreté, c'est l'absence de fioriture, en fait.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est un livre,
de joliesse.
Voilà. C'est un livre sur tous ceux qui abusent du langage, fait par quelqu'un qui maîtrise, qui est un vrai écrivain. C'est un livre qui montre quoi ? Qui montre que le langage peut faire en sorte qu'on signe n'importe quoi, qu'on accepte. Il y a des scènes incroyables où le langage sert d'ailleurs d'une grande réunion en Angleterre à ce que justement les chefs d'état-major anglais ne réagissent pas à l'invasion de l'Autriche et ça se met à discuter du repas, etc. C'est ça le côté très mauvais, très négatif du langage. Il y a une autre scène, un moment où on sait que les Allemands savent que les espions anglais les écoutent et ils se mettent à inventer des fausses des conversations où c'est complètement génial cette annexion de l'Autriche. Voilà, il y a c'est le côté très négatif du langage qui est mis en scène par Vullard. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il décape tout ça. Il décape, il montre à quel point tout ça, c'est de la fioriture. Et en effet, il le montre d'une manière qui est vraiment une vraie manière d'écrivain. Voilà, l'écrivain qui montre que le langage sert aussi à dire cette vérité. Vérité qui est vue de manière très belle à un moment. En effet, au début, il cite le nom de ses 24. À mon avis, il y a eu les 11 de Michon, il y aura peut-être les 24 de Vullard là. Il cite le nom de ses 24 et la litanie est telle qu'on ne lit presque plus. Mmh. Elle est trop longue. Et d'un coup... D'un coup, il s'est fait exprès, juste un coup, il les remplace par des marques. Par les marques que ces hommes représentent.
Et là
ça fonctionne.
Et là, on l'entend et on le lit.
Et là, ça fonctionne parce que c'est des marques c'est de la vie quotidienne. Mm. Et c'est des marques qui, en effet, ont réussi à balayer ces noms-là, à faire oublier leur passé et qui maintenant expliquent qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'y sont pour rien, que c'est du passé. Et voilà, Vullard est là.
Toute la suite de l'histoire en Allemagne, c'est pas la même qu'en France. Si on roule toujours en Renault, l'épuration a eu lieu chez Renault, pour prendre cet exemple-là. On le sait. Là, c'est pas la même chose.
Oui, là, c'est pas la même chose, mais voilà, on a l'impression, en effet, que l'histoire a innocenté ces hommes, alors que, alors Vullard, il les transforme. C'est même pas qu'il montre qu'ils sont coupables. Hein. Il montre que c'est tous des bras cassés, qui savent absolument pas ce qu'ils faisaient ou qu'ils faisaient ça par simple lâcheté. Il y a juste une ombre de reproche à la fin, dans le dernier chapitre, avec qui sont ces gens, si ma mémoire est bonne. Mais qui sont tous ces gens où on voit tout d'un coup les fantômes de ces soldats prisonniers, enfin de ces prisonniers qui ont dû partir à l'usine. Pour le capitalisme, finalement, on les voit là qui ressurgissent dans la pénombre d'un dernier dîner d'industriel. C'est un roman. C'est pas un roman, visiblement. C'est autre chose. C'est un vrai morceau de littérature. Et ce qui est beau, c'est que l'objet du livre, la forme du livre, va très bien avec le livre. C'est un livre très court, très concis, et chez Actes Sud, dans cette collection-là, c'est ça, c'est longiligne, tout est resserré. Il y a une sorte d'utilisation du langage pour pas ça déborde, voilà, pour ne rien enjoliver. C'est très fort.
Mais Éric Guillard appelle ses livres, on n'a pas le qualificatif roman, mais récit. Mmh. Et en fait, je trouve que récit convient assez mal aussi, parce que c'est une forme qui est très, très intermédiaire, qui est très autonome. C'est une forme qui est très particulière. Moi, tout au début, je trouve que Guillard était assez proche... était assez proche d'un autre auteur dont le nom m'échappe, qui a écrit Equatoria, qui est au seuil, qui fait cette grande série Sic Transit sur l'histoire du monde, qui a écrit
le nom m'échappe encore,
mais on ne connaît que lui.
J'étais en train de faire quelque chose avec David Martinet, pardon.
De cette Vous manifestation disiez... de littérature étrangère à Saint-Nazaire, de Patrick Deville. Je trouve que au début il était assez proche, et en fait ça n'est, on se rend compte que il y a des recherches stylistiques qui sont assez proches. Il y a une démarche qui est assez proche. En fait, on n'aboutit pas du tout au même résultat. Deville développe quelque chose de très très ample sur un siècle et demi d'histoire, et avec une pensée politique qui est assez puissante, une lecture politique qui est assez puissante aussi. Tandis que Vuillard fait comme ça il prend des moments beaucoup plus brefs, ce moment de l'histoire de l'Allemagne.
Comme il l'a fait le 14 juillet en début de saison littéraire.
Bien sûr.
Très petit, on l'a pas dit, hein, si vous l'avez dit, mais c'est 150 pages à peine du petit format Actes Sud.
Mais ça dessine au point littéraire, c'est très difficile. On peut pas se contenter de récit, on peut pas appeler ça roman, il faudrait inventer un autre terme. Parce que sur cette période de l'Anschluss, il pousse quand même pratiquement jusqu'à la caricature au boulevard. Enfin, ouais. À un moment, ça devient drôle.
Ah, il utilise cette impossibilité, tous les registres nécessaires. Ouais.
Cette impossibilité, cette envie d'être envahi, et cet envahisseur qui n'arrive pas. Enfin, ouais. Pour une question de panne mécanique, quelque chose qui est assez drôle. Moi, le livre, je le situe entre deux choses, parce qu'il y a quelque chose qui est assez remarquable chez Éric Guillard, c'est que jamais il ne fait de discours. C'est-à-dire, jamais il souligne en disant attention, etc., etc. Et je le situe, moi, entre deux livres, entre deux œuvres. Un film qui est Les Damnés, je parle du film
de Visconti,
du chef-d'œuvre de Visconti, et non pas de la catastrophique adaptation qui a eu lieu à la Comédie Française.
Oh non, c'était très bien aussi.
Façon.
Et il avait envie de le dire, ça le démangeait, donc on le laisse faire.
Non, on peut pas laisser passer une chose pareille, quand même, parce que là, effectivement, il y avait du surdiscours qui était en plus très très gênant. Et un autre.
Ce sont mot pour mot les phrases de Visconti du scénario original. Il n'y a pas un ajout ni un retrait. Mais c'était juste pour votre information.
Je vois Daniel Martin d'accord avec Christine Angot.
Mais
c'est le prochain Préviana.
Qu'est-ce que je veux dire? Et un autre.
Donc, les Damnés, évidemment, parce que c'est le même parcours. Comment des industriels se retrouvent compromis avec le régime nazi pour leur profit et pour leur perte.
Sur l'effacement de la mémoire.
Il faut que vous laissez le temps d'expliquer aux éditeurs et aux éditrices, Daniel, plutôt que de parler pendant que je parle. Il faut juste que les gens puissent entendre, mon cher Daniel. Allez-y, continuez.
Ah, mais vous avez terminé.
Pendant que vous parliez, oui.
Bon, et un autre livre qu'on a peut-être oublié, qui est une œuvre, je trouve, absolument majeure, qui est là sur l'effacement. Du crime, qui est le bouquin d'Heinrich Böll qui date des années 50, qui s'appelle Les Enfants des Morts, et où on voit cette société allemande dans l'obligation d'effacer comme ça des crimes pour continuer à avancer, continuer à vivre. Et ce livre d'Heinrich Böll, toute l'œuvre d'Heinrich Böll est assez passionnante, mais celui-ci particulièrement, je le recommande.
Un signe de Xavier Martinet qui veut vous poser des questions peut-être.
Oui, des questions. D'abord deux remarques sur ce que vous avez dit sur ce livre qui paraît fascinant. D'abord, cette relation entre capitalisme, nazisme et effacement, effectivement, relation qui n'était pas évidente, mais qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr, avec cette fameuse usine de la Buna, par exemple, à Auschwitz, usine de caoutchouc. La deuxième chose, c'est que ça me faisait penser aussi, cette question du langage, à une scène dans chez Malaparte, dans Caput, il me semble. Il y a un dîner chez l'ambassadeur nazi à Varsovie ou à Cracovie, et donc tous les dignitaires sont là, Malaparte également, et on cause des juifs qui sont dans le ghetto à côté, mais c'est le début du ghetto encore, donc on prévoit d'aller leur rendre visite, et puis on prévient que, attention, ils sont sales, il y a des maladies là-bas, c'est difficile, ils savent pas s'organiser. En fait, ce qu'on voit, c'est le développement d'un langage, mais un langage qui efface les gens, et je me disais, pourquoi peut-être ce style, bon, ne l'ayant pas lu, je ne sais pas, mais peut-être un peu sec ou lapidaire, en tout cas, vous disiez, pour que ça ne déborde pas, parce qu'il y a précisément cette méfiance du langage, c'est comme ça qu'elle s'exprime. s'exprime peut-être dans ce roman. Enfin voilà, c'est simplement une question.
Question sur la méfiance, c'est ce que vous disiez un peu,
Laurent Nunez. Je leur ajoute cette méfiance parce que le titre même, l'ordre du jour, est une immense litote. L'ordre du jour, c'est quoi? C'est la vie et la mort de millions de personnes. C'est l'annexion d'un pays. Il explique très bien, c'est les scènes où on frappe des gens dans la rue. Tout ça, c'est résumé dans un truc très simple. Oui. L'ordre du jour, une sorte de langage administratif qui fait très peur.
C'est terrible. Un dernier mot, Daniel Martin?
Je repense à l'ensemble du travail de Huillard. Je trouve qu'il pose là quelque chose de très important. La seule énigme qui reste pour moi, c'est il a publié un livre en août dernier, il publie un livre maintenant. Je me demande s'il a fait avancer la date de publication pour être dans cette période de électorale ou pas, je ne sais pas.
Vous lui demanderez.
Parce que, oui, je vous donnerai la réponse.
Très bien.
Mais parce que je trouve que là, il y a quelque chose... c'est un livre qui peut se lire dans cette actualité, sur la relation entre crime, capitalisme et politique, et des choses qui sont intéressantes.
Rien ne vous échappe. L'ordre du jour d'Éric Vuillard chez Actes Sud.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et à suivre dans la dispute, Pascal Quignard et Simone Veil. Tout d'abord, nous suivons Xavier Martinet dans le Petit Salon. Je ne vous salue pas à nouveau, Xavier Martinet, puisque vous avez déjà pris la parole, mais je vous fais cette recommandation. Attention aux faux pas.
Aux faux pas littéraires, exactement. Aux faux pas dans les récits, et surtout aux États-Unis, puisque c'est là qu'on se dirige, dans ce Brave New World of Publishing, le meilleur des mondes de l'édition, comme le dit le site Acculturated. C'est d'abord cette histoire racontée par Slate aux États-Unis, qui est celle des livres de Becky Albertalli, romancière pour jeunes adultes, histoire emblématique de ce phénomène qui touche une génération d'écrivains aux États-Unis, donc et peut-être même tout un milieu éditorial. Le deuxième roman de Becky Albertalli a été relu 12 fois avant la publication, non par son éditeur, mais par des particuliers, tous très particuliers. En fait, Becky a opté pour une pratique de plus en plus répandue aux États-Unis, ce qu'on appelle la relecture sensible, sensitivity reading, ou alors plutôt relecture délicate. La presse américaine s'y intéresse depuis la fin de l'année dernière. Les sensitivity readers, donc les lecteurs délicats, ces détecteurs de faux pas ou de bévues littéraires, sont bien des lecteurs freelance, censés repérer des fautes particulières, des lecteurs qu'on pourrait dire avertis, puisqu'issus de minorités. Auparavant, je cite les NPR, la radio américaine, un éditeur pouvait changer la structure, l'intrigue, la grammaire. Désormais, le processus a une nouvelle couche, traquer les expressions et les formules qui pourraient offenser les minorités. La pratique semble donc s'être solidement établie ces dernières années, même si c'est plutôt une nouvelle manière de nommer quelque chose qui existe déjà. Ces bêta-lecteurs, explique la radio américaine, sont comme des bêta-testeurs, un peu pour les jeux vidéo, mais au lieu de repérer les failles de programmation ou de gameplay, il s'agit de détecter les failles morales d'un récit, là où il devient potentiellement offensant pour un lecteur issu d'une minorité et qui participe aux États-Unis de ce qu'on appelle les micro-agressions. Je ne connaissais pas le terme, je l'ai appris à ce moment-là, mais il revient partout. Le livre de Becky Albertalli est donc passé au prisme des LGBTQ, des Noirs, des Coréens américains, de l'anxiété, de l'obésité et de la représentation des Juifs, entre autres, poursuit Slate. Grâce à l'intervention même conjointe de deux détectrices littéraires, Becky Albertalli sait qu'on ne s'appelle pas bro dans les milieux universitaires noirs. Le phénomène touche pour l'instant surtout la littérature pour jeunesse et adolescents, vous l'aurez compris, mais c'est un réel problème pour l'industrie, dit une éditrice, elle, pour enfants, Washington Post, et ses relectures, en tout cas, ont une véritable influence, en tout cas pas négligeable. Les exemples de récits ainsi révisés s'accumulent. Tel roman mettant en scène des esclaves aux États-Unis, un tel décrivant des rites amérindiens, ou celui-ci, le récit de l'évasion d'une femme schizophrène qui va finir par commettre des meurtres en série, cliché bien sûr, avec un personnage, je cite, dépourvu d'authenticité ou de profondeur, dit une lectrice avertie spécialisée dans les troubles psychologiques, qui explique que lorsqu'elle a recommandé de modifier le récit, elle s'est heurtée là aux protestations de l'auteur qui lui a répondu, si l'histoire n'avait pas d'antagoniste, elle ne serait pas très intéressante. Alors, expert ou censeur, demande la NPR, le débat est vif, il est vrai, il est transatlantique même, puisqu'il a provoqué un éditorial dans le Guardian. Aux États-Unis, c'est une aide pour les auteurs, selon le Huffington Post, presque un censeur pour le Washington Post. Mais ce n'est pas de la censure que de dire « soyez plus respectueux, plus responsable et soyez conscient de la manière dont vous dépeignez les autres cultures », dit au magazine Quartz Jennifer Baker. Elle, c'est une lectrice avertie freelance qui a même créé un podcast « Minorities in Publishing ». Alors pour Becky Albertalli, l'usage est en tout cas fructueux. Outre les corrections des erreurs, les relectures par des particuliers lui ont permis d'insérer une péripétie supplémentaire en faisant accueillir par un silence réprobateur l'hypothèse d'un type vraiment relou, c'est dit dans le livre, qui tenait beaucoup à ce que l'homosexualité de sa camarade provienne du fait qu'elle avait deux mères lesbiennes. Cela permet aussi d'éviter des cas trop litigieux ou trop invraisemblables, il est vrai, comme ce roman en 2014 qui relatait une romance entre un nazi et une réfugiée juive et qui avait déchiré la communauté des romanciers dit Newsweek. Mais derrière ce débat sur la liberté d'expression, il y a aussi un débat plus politique sur la représentation des minorités dans la littérature. Au bout du compte, seulement 14% des livres pour enfants et adolescents publiés aux États-Unis présentent des personnages non blancs, etc. Et lorsqu'ils le sont, ils sont souvent produits par des écrivains établis de la majorité sociale qui écrivent sur quelque chose dont ils n'ont pas l'expérience, écrit là l'auteur Sarah Anna Gomez sur le site The Establishment. La question, du coup, est toute simple. Qu'en pensez-vous? Mais surtout, imaginez-vous ce système transposable en France?
Ah, déjà, il faudrait qu'ils aillent voir Portier de nuit pour des histoires d'amour qui peuvent parfois être étranges. Mais toutes les histoires d'amour ne sont-elles pas étranges, Daniel Martin? Votre sentiment sur ce nouveau fléau?
Lorsqu'on m'a donné ce thème avec le lien sur lequel je suis allé me documenter, j'étais totalement épaté. Je n'imaginais même pas que quelque chose comme ça puisse exister. Et ça m'a fait penser à une personne avec qui je parlais au début de la lecture sur tablette, donc il y avait quelque chose d'un petit peu chic, quelques personnes s'en étaient emparées, et c'est une personne qui me prouvait l'intérêt de la lecture sur tablette. Et à l'époque, on lisait beaucoup, on relisait des classiques, et il était en train de relire du Zola, et il me dit « c'est formidable parce que Zola, là, il est au marché, je peux aller vérifier ». En appuyant sur le mot d'un poisson, chaque poisson, je peux aller vérifier si la description de Zola est exacte. Mmh. Alors, c'est nier totalement la notion même de roman, quand même. Enfin, et là, je trouve qu'on est dans cette négation totale. Enfin, c'est une privation de liberté, c'est une privation de créativité. C'est énorme, quand même, comme... Je sais pas. Non, ça n'a pas l'air de vous intéresser.
Si, mais on vous laisse parler jusqu'au bout de votre phrase, Daniel Martin.
Vous partagez silencieusement mon atterrement.
J'ai parlé d'un nouveau fléau, hein, vous lançant. Mais enfin, bon. Laurent Nunez.
Non, j'écoutais religieusement Daniel Martin pour vérifier qu'il n'y ait pas de micro-agression sur ce qu'il, dans ce qu'il disait. Non, en effet, ça nous étonne, mais parce que les mots qui viennent à l'esprit, c'est quoi? Bien-pensance, censure.
Politiquement correct.
Politiquement correct. Alors, on est déjà très surpris parce que moi, je pensais que c'est quand même le métier d'un éditeur. De relire et de voir avec son auteur les passages qui clochaient, voilà, et j'utilise ce mot très vague parce que ça peut être le fond comme la forme, voilà, qu'on ait des experts ou des bêta lecteurs, ça me fait un peu peur, j'inverserais en disant des lecteurs bêta, mais parce que je trouve ça, moi ça me... Comment vous dire? On parle de micro-agression, mais alors il y a une sorte de dictature dans ce cas, en effet, peut-être des communautés, ou en tout cas de ceux qui croient représenter des communautés. Parlons de ça exactement. Mais la micro-agression, on en a besoin. On a besoin d'être agressé, sinon on peut pas se défendre. On a besoin de lire lire des ouvrages où on n'est pas d'accord, où la vision du monde est différente de la nôtre. On peut pas censurer avant, en amont, en disant c'est pas possible de dire ça. Vous savez, quand je lisais cet article de Slate qui est en effet sidérant, on n'imagine pas que ça puisse exister. Je pensais à une définition de la littérature par Bachelard. Bachelard dit, mais il parle de l'image, mais pour la littérature c'est pareil. Il dit qu'il y a deux sortes d'images, deux sortes de livres. Il y a les livres qui résonnent et les livres qui retentissent. Quand ça résonne, c'est quand je dis ah ouais, ce livre-là, c'est exactement ce que je pense. Ça résonne, c'est-à-dire que je me retrouve dans ce livre. Ça n'a aucun intérêt. À quoi bon lire un livre où je me retrouve totalement? Je caresse dans ma tête. Mais ça flatte le lecteur, en tout cas, qui est fier que quelqu'un d'autre ait les mêmes pensées que lui. Ben voilà, c'est ce qu'il voudrait avec leur...
Ça flatte ou ça conforte.
Voilà, c'est ce que voudraient les bêta-lecteurs, supprimer tout ce qui est tout ce que eux ne pensent pas dans un livre pour retrouver un livre où ils seraient d'accord avec tout. Moi, je préfère. Et Bachelard dit ce qui compte, c'est que ça retentit. C'est qu'on lit quelque chose et on s'y attend pas du tout. Ce n'est pas du tout conforme à notre schéma, à nos visions à nos pensées, quoi. Et moi, j'attends plus de la littérature qu'un retentissement, même négatif, même quelque chose qui me chagrine. Qui me donne au moins, je vous dis, le pouvoir de m'opposer. Voilà, si on n'est pas agressé, on peut pas s'opposer. Je suis très surpris par cette vision de la littérature. L'un des seuls intérêts quand même d'apprendre ça, c'est que ces faux pas littéraires, ça me rappelle quand même le recueil de Blanchot, Faux pas, qui est un recueil d'articles mémorables, qui rappelle voilà que la littérature, c'est aussi des faux pas.
Ah ben tu sais, je me sens micro-agressé parce que j'ai lu tout à l'heure, il parlait des crânes chauves.
Ah ben voilà.
Qu'est-ce qu'il a contre les crânes chauves, Éric Vuillard? Je me sens très tout à fait micro-agressé tout d'un coup. Je me dis que ça fait plein de nouveaux emplois.
C'est effectivement, je trouve que c'est une vision de la société qui est absolument terrible. Vous parlez de politiquement correct. Moi, je parlais plus de tentatives de censure, enfin de choses comme ça. Je veux dire tout l'intérêt.
Politiquement correct et littérairement indigent.
Oui, ouais, la façon dont vous définissez les lectures, c'est le propos même de chaque conversation, de chaque débat. Je veux dire, si on n'en ressort pas un peu transformé, un peu enrichi, quel est l'intérêt? Et l'enrichissement passe souvent par
la
position du conflit, de la réflexion. Et je trouve ça terrifiant.
Vous avez, Martinet, des précisions, des questions?
Oui, des précisions. En fait, en lisant tous ces articles, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez indécidable dans les raisons pour lesquelles on a ce phénomène. Est-ce que c'est parce que, on le voit, on a quand même une multiplication de récits qui ont l'air remplis de clichés? Ça, c'est vrai. Il y a aussi cette question de l'expression par tous les moyens possibles d'une question sociale qui est de plus en plus prégnante aux États-Unis. Peut-être aussi, et qui en découle, l'inquiétude des éditeurs qui enjoignent à leurs écrivains peut-être de se faire relire aussi et qui... peut-être en profite pour externaliser aussi. Et puis finalement, vous le disiez aussi, il y a quelque chose de vraiment inquiétant, c'est cette logique, on pourrait presque dire anti-littéraire, où on voit qu'il y a d'un côté une volonté d'autocensure qui est manifeste chez certains écrivains, un politiquement correct aussi, en gros une négation presque de l'écrivain ou l'apprenti écrivain par lui-même, quoi.
Oui, et puis sans doute aussi, je crois que c'est le début de l'article de Slate, hein, justement, enfin cette traduction d'un article américain, il s'agit du cas d'un auteur qui a eu un problème parce que dans son livre, il y avait un passage qui avait fait polémique et que du coup, c'était beaucoup de mauvaise publicité sur tel livre et que,
exactement.
Voilà, l'article commence comme ceci, donc... se prévenir de tous les côtés, border tout, c'est la seule solution pour avoir des livres tout à fait insipides.
On a échappé à ce principe américain qui veut que dans chaque librairie, les livres soient classés par genre. Hein. On a la littérature pour femmes, la littérature homo, la littérature, etc. etc. Mm-hmm. Donc on a échappé à ça dans nos librairies, fort heureusement.
Pour l'instant.
C'est une question qui est posée depuis longtemps.
Ne parlez pas sur l'avenir.
Oui, alors là, vraiment, on en reparle.
Espérons, quand
même. Bien sûr qu'on peut, on peut l'espérer. Du coup, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire, mais ce qui n'est sans doute pas très intéressant. Alors, Nunez, un dernier mot sur cette question?
Non, je suis juste étonné. Je trouve que c'est tellement différent de chez nous que je suis assez optimiste. À peu près persuadé que ça n'arrivera pas. En fait, on a du mal à imaginer comment ça pourrait arriver dans un pays comme la France où la littérature est vraiment un modèle à part sur les idées, quoi.
Mais peut-être le danger, et puis c'était pointé dans l'article cité par Xavier Martinet, c'est que ça concerne dans un premier temps de gros éditeurs de livres destinés à la jeunesse, je mets plein de guillemets, qui vont peut-être, eux, et qui sont peut-être déjà en France en train de le faire sans que nous en soyons absolument avertis, pour que surtout aucun parent ne lisant par-dessus l'épaule de son enfant ou de son adolescent puisse se dire, oh là là, que c'est pas bien de dire ça sur telle catégorie de la population. Moi, je suis pas tout à fait aussi optimiste que vous.
Mais sur un côté optimiste, vous vous souvenez cette polémique qu'il y a eu à propos d'un livre pour enfants qui s'appelait À poil, qu'un homme politique avait découvert, ça en était offusqué. Il y a quand même eu une remontée assez unanime et assez forte pour dire, bon...
Là, c'était juste de la bêtise. Mais si un groupe, tel dit la représentation qu'on donne de, un Amérindien est absolument un scandale.
Franchement, on n'a pas parlé de bêtises à propos de ce comportement, mais peut-être que c'est ça, simplement.
Bon, peut-être, moi je crois que c'est des intérêts commerciaux qui sont en jeu.
Oui. Moi j'en demandais si les entreprises allemandes allaient attaquer Vuillard pour tout ce qu'ils disaient sur leur passé.
C'est le principe du silence, plutôt.
Juste une information, Arnaud, puisque vous avez parlé des Amérindiens, je vais dénoncer, c'était J.K. Rowling, donc l'auteur... d'Harry Potter, qui avait publié un livre en 2016 où il était question des traditions navarros, et effectivement des lecteurs amérindiens mais aussi des universitaires lui ont reproché sa description publiquement, donc elle a dû réviser son livre.
Ah oui, ben voyez, j'étais pas loin, et je pense qu'on y va, ou peut-être qu'on y est sans encore le savoir, Daniel. Le deuxième livre au sommaire de cette dispute, celui de Pascal Quignard, qui lui aussi publie de plus en plus régulièrement. Le livre s'appelle « Dans ce jardin qu'on aimait », il est publié chez Grasset. Une fois n'est pas coutume, je vais lire l'avertissement signé Pascal Quignard, et pas vraiment les premières pages, mais l'avertissement. Choix du mot un peu étrange, mais Laurent Nunez va décrypter tout cela, lui qui parle le Quignard dans le texte. Texte donc. Au début du mois de décembre, quand les nuits se font tellement plus longues chaque année, dans les moments où le rouge-gorge réapparaît avec l'hiver et hante en solitaire le jardin, s'empare tout seul de la rive, une dépression toute venimeuse et douce, brumeuse, insinuante, saisonnière, tourne autour de moi comme un nuage vague, finalement me prend. Puis elle s'apesantit, elle se fait presque lourde, elle se transforme peu à peu en une véritable tristesse. Alors, il me faut inventer une tâche, il me faut tromper le temps, leurrer les heures, entrer dans mon lit, détripler les oreillers, amonceler les couvertures, repousser le froid. C'est ainsi qu'en 1989, j'ai eu le désir de raconter la vie d'un musicien qui me paraissait mal connu et qui avait composé de très beaux duos de viol dans les années 1680. On connaissait son nom, il s'appelait Monsieur de Sainte-Colombe. Et j'inventais sa vie tout en frissonnant d'un peu de fièvre. Il vivait à l'écart de la cour, dans un ermitage solitaire, éloigné de Paris, sur les bords de la Bièvre. J'appelais cette tresse de fragments et de souvenirs tous les matins du monde. 25 ans plus tard, en 2016, dans les mois d'octobre et de novembre, quand les pluies et les rhumes revinrent, quand la gorge de nouveau se contraignit, serra, toussa, quand les fougères roussirent, quand les feuilles rouges sang de la vigne vierge de nouveau tombèrent d'un coup le long du mur de la maison principale, quand les feuilles d'or de l'érable plurent, j'ai éprouvé le besoin de duper la longue nuit d'hiver et j'ai ressenti le désir de raconter la vie d'un autre musicien qui me paraissait mal connu, que je jouais beaucoup, pour lequel me portait une sorte de vénération en raison de son attachement extraordinaire aux oiseaux. L'avertissement ne s'arrête pas là. Précise d'ailleurs que le seul musicien qui ait pris l'œuvre de Chénet, c'est son nom, au sérieux, était Dvorak. Laurent Nunez.
Oui.
Votre chouchou.
Oui, alors c'est... Je vais vous faire mentir tout de suite. Quand j'ai commencé ce livre, mon chouchou, j'ai commencé à moins le chouchouter. C'est-à-dire que initialement le titre est un peu, c'est pas le meilleur titre de Quignard. Et puis que je commençais à le lire, je trouvais que c'était écrit parfois en caractère un peu gros. Il y a des dialogues, il y a 6 lignes de dialogue qui font une page, etc. J'ai eu très peur au début d'une sorte de fond de tiroir, parce que certains écrivains font des fonds de tiroir. Heureusement, Quignard reste toujours mon chouchou parce que je me suis complètement planté dans cette première lecture. Toute l'astuce de Quignard, c'est de faire croire quelque chose et d'écrire autre chose. L'avertissement, vous l'avez dit, il fait croire qu'il écrit une sorte de suite de tous les matins du monde sur un révérend fasciné par les bruits des oiseaux, enfin, en tout cas par les bruits de la nature, et qui essaye de les retranscrire pour qu'on puisse les jouer. Et très vite, on découvre que ça parle pas du tout de ça, ce livre. Ça, c'est c'est une autobiographie. C'est un portrait de Quignard, en fait. Parce que et Quignard, qui à la fin arrive et à toute fin du livre, comme dans Les Larmes d'ailleurs, il revient. Dans Les Larmes, il y a quelques mois, il revenait, il s'asseyait sur une chaise longue et il regardait le lecteur. Là, cette fois, il vient, il revient, son ombre se confond complètement avec celle du révérend et il vient nous saluer. Ce qui est très fort dans ce livre de Quignard, c'est que... vous savez, Quignard, en effet, bon, c'est un auteur prolifique qui poursuit un long cycle qui s'appelle Le Dernier Royaume chez Grasset, d'autres livres chez Galilée et tout. Et à chaque fois, il donne des morceaux, des petits romans. Normalement, les romans comme Villa Amalia ou Les Solidarités Mystérieuses ces dernières années sont des romans très classiques. Là, Quignard, il avait réussi à rénover dans Le Dernier Royaume, mais il n'a pas encore réussi à rénover son art de la fiction, je trouvais. Cette fois-là, on a une œuvre d'une liberté incroyable sur le ton et formellement. On a l'impression, parce qu'il y a un révérend qui chasse sa fille, parce qu'il n'arrive pas à faire le deuil de cette femme qui est morte et qu'il a envie de rester avec elle et dans le lieu qu'elle a construit, qui est ce jardin. Mais à côté d'eux, il y a une sorte de récitant, qui est une sorte de coryphée ou un chœur peut-être antique. Et puis il y a Quignard qui arrive. C'est-à-dire que Quignard arrive à inventer une forme, où d'ailleurs passé, présent, futur se confondent lorsque les ombres arrivent, les morts parlent, s'adossent aux vivants sans aucun problème. Il arrive à créer quelque chose d'ailleurs où il y a de la fiction, il y a du poème.
Du théâtre.
Il y a du théâtre, complètement. Vous savez, Quignard, en effet, depuis 4-5 ans, fait le tour de la France pour faire certaines représentations. Il le faisait déjà avec Les Larmes, et puis il le fait avec des oiseaux, notamment, et des rapaces, etc., ou avec du piano. Je crois qu'il a puisé quelque chose.
Surtout avec Marie Vial, en l'occurrence, magnifique comédienne qui porte ses textes depuis très longtemps.
Ben, je pense qu'il a puisé quelque chose de ses représentations théâtrales pour les insérer là-dedans, parce qu'en effet, on aboutit à une forme vraiment neuve qui m'épate. C'est un très grand livre d'un très grand écrivain. C'est une simplicité là, au vrai sens du terme. C'est-à-dire, le simple, c'est vraiment l'artistique. C'est l'histoire d'un homme qui veut rester dans le passé, qui veut rechercher quelque chose que Quignard appelait avant le jadis et qui est la nature. Et personne ne veut croire que ce qu'il écrit, c'est étrange, que ce qu'il publie est lisible et viable. Et finalement, on découvre que ce révérend et Quignard ont capté l'essentiel.
Daniel Martin, après cet éloge.
Oui, alors je ne serai pas tout dans l'éloge. J'ai trouvé ce livre absolument transparent. Je trouve qu'il y a de la matière pour faire une nouvelle de 30 pages ou de 40 pages. Et il y a un problème à la fois. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Quignard, mais là, il se trouve que pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Et puis, sur la pratique éditoriale, les éditions Grasset, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il y a un petit problème de trésorerie ou de quoi que ce soit, habituellement, ils sortaient un inédit de Stefan Zweig. Donc, pendant quelques temps, tout le monde en parlait. Ça se vend énormément, Stefan Zweig. Ouais. Donc, je ne sais pas, il n'y a peut-être plus d'inédit de Stefan Zweig. Donc, on sort ce texte de Quignard. Moi, à mon avis, il n'aurait pas dû le publier. C'est un faux texte de théâtre. C'est effectivement écrit très gros avec des grands blancs, parce que comme ça, on arrive à faire un volume et à lui attribuer un prix de vente. Mais j'ai trouvé ça totalement désolant. Alors, on part sur cette idée du révérend qui a donc collecté ces chants d'oiseaux et tous les bruits.
Puis des sons, l'eau qui tombe dans le seau,
etc. Ce qui est totalement passionnant. Moi, j'ouvre le livre, je me dis, je n'ai qu'une envie, c'est de savoir ça. Donc on n'en parle absolument pas, à part que cet homme a constitué un livre, que ce livre, effectivement, il le propose à des éditeurs et que personne ne veut l'éditer. C'est sa fille qui va effectivement l'éditer à compte d'auteur beaucoup plus tard. Donc de cette histoire, il n'y a pas question. Il est question d'une seule chose, c'est que ce révérend a épousé une jeune femme quand il était follement amoureux et qui est morte en donnant le jour, la vie à cette jeune fille, qui va donc devenir sa fille, laquelle il va la rejeter. Et cet homme, on apprend qu'au moment de l'accouchement, le médecin, en gros, lui a donné le choix en disant est-ce qu'on doit sauver la mère ou la fille ? Et il a dit sauver la fille, et il ne s'en est jamais remis. Donc il y a cette histoire que je trouve très très passionnante, de cet amour fou qui a duré très peu de temps et qui, parce qu'il est inachevé, parce qu'il appartient au passé, devient une sorte d'amour absolu. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Mais de ça non plus, il n'en fait rien, si ce n'est qu'une redite et une répétition sans cesse et un enfermement. Et à la fin, dans le déroulé de texte, le révérend le dit, il se présente totalement comme un être inabouti. C'est pourquoi il rejette sa fille, puisque sa fille, c'est la vie. Donc, il la rejette, mais de toutes les façons. C'est-à-dire qu'il il la tue au sens vrai du terme. Il lui interdit de vivre à cette femme. Et cette femme va ne vivre que dans l'admiration pour son père. Enfin, il y a une matière là absolument phénoménale que Don Quignard ne fait strictement rien, de mon avis.
Allez, dernier mot, Laurent Nunez. Parce qu'on a compris que vous étiez à l'opposé, évidemment.
Oui, mais je suis d'accord avec Daniel Martin, mais les mêmes raisons me font admirer Quignard. Évidemment, il ne parle pas du livre du révérend, parce que ce livre, c'est le livre du révérend. Mmh. Il peut pas... le révérend, son livre n'est pas publié parce que les gens lui disent, ils se moquent de lui, parce qu'il dit, tu as essayé de normaliser, de transcrire dans le langage humain le langage de la nature. Donc Quignard dit, ne cède pas à cette erreur. Moi, je trouve que c'est un grand livre, parce qu'il ne s'appesantit pas.
Mais Laurent, dans la prose, il n'y a aucune relation au sonore, il n'y a aucune relation. Alors, il y a beaucoup plus une relation à la lumière, qui est la partie de Quignard que j'aime beaucoup. Cette ombre et lumière, cette peinture 16e, etc. Là, c'est extrêmement présent. Mais au son, il n'y a aucun rapport au son. Ah, oui. Alors que Quignard, souvenez-vous de ces leçons de musique là qui précèdent tous les matins du monde, c'était sur la viole de gambe, c'était quelque chose d'absolument remarquable, sur la gravité, sur la masculinité, il y avait quelque chose de remarquable. Et puis bon, moi je dois dire que cette histoire de l'amour absolu passé auquel on se raccroche toute sa vie m'agace un peu, parce que bon, la vie c'est la vie, et effectivement c'est tout autre chose, enfin...
Voilà, Daniel Martin n'a pas de cœur.
Bon, c'est la conclusion de cette séquence de la dispute qui était consacrée à Dans ce jardin qu'on aimait de Pascal Guignard, qui vient de paraître chez Grasset.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute littérature, c'est toujours une édition de poche. Ce soir, un texte de la philosophe Simone Veil, La personne et le sacré, publié dans la petite bibliothèque Rivage Poche, avec une préface de Giorgio Agamben qui débute ainsi. L'essai sur la personne et le sacré qu'a écrit Simone Veil à Londres dans la dernière année de sa vie ne cesse de nous interpeller pour au moins deux raisons. La première est la critique sans réserve du concept de personne qui, à plus d'un demi-siècle de distance, n'a rien perdu de son actualité. La seconde, sans doute tout aussi actuelle, est la recherche difficile et passionnée d'un principe qui se place au-delà des institutions, du droit et des libertés démocratiques et sans lequel celles-ci perdent tout sens et toute utilité. Ces deux raisons, qui illustrent en quelque sorte les deux termes du titre de l'essai, s'y trouvent aussi étroitement liées que la trame et la chaîne d'un tissu et... Si nous tentons ici de les distinguer, le lecteur ne devra pas oublier que, dans la pensée profonde de Simone Veil, elles sont en réalité inséparables. Daniel Martin qui commence à nous parler de cette édition donc en rivage poche de ce texte de Simone Veil, La personne et le sacré.
Alors avant de passer à Simone Veil, j'aurais juste faire une petite parenthèse parce que je ne voudrais pas qu'on pense que j'ai une dent contre les éditions Grasset. Je n'ai pas aimé le livre de Brisac, je n'aime pas le livre de Quignard, mais par contre il y a un petit bijou qui vient d'être publié chez Grasset de Clémentine Mélois qui s'appelle Sinon j'oublie et qui est un livre absolument extraordinaire sur les listes de courses. C'est d'une inventivité, d'une créativité, d'un plaisir à lire qui est extraordinaire. Donc, je vous invite vraiment à découvrir ce livre.
Donc là, vous réintroduisez le coup de cœur de façon complètement pirate en cours d'émission, mais il ne reste plus que six minutes pour parler de ce livre de Simone Veil.
Oui, Simone Veil. Écoutez, moi, Simone Veil ne fait pas partie de mes lectures habituelles, mais je trouve qu'il y a des périodes où il faut quand même se pencher sur des auteurs comme ça, dont on connaît la vie, l'exigence, cette personne qui est à la fois un penseur, mais cette personne qui a donné de sa personne énormément puisqu'elle est allée au péril pratiquement de sa vie et de sa santé, travailler dans des usines très proches des gens. Donc c'est vraiment quelqu'un qui porte quelque chose. Et alors on cite énormément Simone Veil, on la lit peu. Elle publie elle reparaît dans cette collection Rivage Poche, qui est une collection absolument formidable. On trouve aussi bien du polar, du roman américain, des textes de philosophie, des auteurs complètement oubliés comme Willa Cather, même Laurent Nunez est dans cette collection.
C'est
formidable.
Pour dire l'exigence de la collection.
Non, mais franchement, cette collection de poches, je trouve que c'est une mine, on peut trouver absolument de tout. Donc, en particulier, lire du Simone Veil.
Donc là, il ne reste plus que 4 minutes.
Alors je vais aller très très vite. Je trouve que Simone Veil apparaît maintenant comme un peu lointain et totalement nécessaire. Elle a une forme de naïveté qui est assez curieuse et qui est très opérante, je dirais, qui est très convaincante. Elle a, par exemple, sur cette notion de la personne et du sacré, c'est pour moi, c'est très éclairant de lire ça aujourd'hui, c'est-à-dire de faire la part des choses comme ça. Elle source tout, bien sûr, de lectures extrêmement classiques, de réflexions extrêmement passionnantes, et elle redonne à chaque termes sont un sens véritable et un sens que parfois on a oublié et qui est nécessaire. Elle a toute une réflexion aussi sur l'être et le collectif, de comment l'être se fond, ne se fond pas dans un collectif et des dangers du collectif, de l'importance de l'individu. Je vais céder la parole à Laurent Nunez. Vraiment, moi, c'est pas un livre qui me convainc.
Ça me rappelle quelqu'un.
C'est pas un livre qui me convainc totalement, mais c'est un livre qui est totalement passionnant à lire.
Laurent Nunez, vous avez donc la parole.
Oui, c'est un livre passionnant parce que, en fait, il réagit à une sorte de controverse sur ce qu'on appelait, sur quelque chose qu'on a oublié, qui est la philosophie personnaliste d'une revue qui s'appelait Esprit. Et on a oublié cette controverse, et tant mieux parce que, tout à coup, la réponse est formidable. La réponse suffit à elle-même. Chez Simone Veil, il y a quelque chose qui est contre l'idée de la personne. Que la personne aurait des droits, et on pourrait dire oh là, mais c'est très dangereux de dire ça. Et du coup, parce qu'en fait, c'est-à-dire que l'être humain, encore plus que ça, n'est pas qu'une personne. Elle le rappelle très bien, c'est que même étymologiquement, personne, ça vient de persona, c'est juste le masque qu'on se mettait par-dessus ce qu'on était quand on était au théâtre. C'est une personare, ce qu'on entend à travers, c'est tout. Donc ça n'a tout ce qu'on entend, nous, des droits des personnes et tout, elle le refuse complètement, et elle dit chose de mieux, ce qui est vrai, le plus beau, c'est l'impersonnel. C'est la recherche en art, en poésie, en science, et elle explique ça d'une manière qui élève l'âme. C'est très beau, vraiment, de lire ça. On peut peut-être commencer par ça si on n'a pas lu de Simone Veil, en effet, parce que, on la lit très peu parce qu'elle est plus considérée peut-être comme mystique que comme philosophe. Mais vraiment, voilà, c'est une lecture. Alors c'est pas une lecture évidente. Il faut le dire aussi. Chez tous les philosophes, il y a un autre rapport aux mots qu'avec les écrivains. Ils ont leur propre vocabulaire. Il faut l'accepter. Mais c'est vraiment un livre qui enrichit, qui en ce moment-là fait du bien en ce qu'il révèle ce que l'être humain est capable de vouloir est capable de désirer plutôt que de dire incessamment j'ai le droit, tu n'as pas le droit, j'ai besoin d'eux. Voilà, il y a autre chose à dire, à exprimer en tant que personne.
Ah non, c'est absolument formidable. Alors, quant à la lisibilité, effectivement, je pense qu'il est nécessaire, enfin, il est préférable d'attaquer directement le texte de Simone Veil et de lire la préface ensuite.
C'est souvent le cas.
Parce que si on commence par la préface, on peut la trouver un petit peu filandreuse, comme ça.
Oui.
Et en fait, ce qu'elle n'est pas. Mais je crois que c'est plus intéressant de lire après.
Oui, il existe des postfaces, hein, c'est dommage que les éditeurs n'y pensent pas plus souvent. Mais non, mais c'est vrai que c'est une chose qu'on dit souvent. Mais
sur le côté légèrement désuet, légèrement naïf de ce texte.
C'est dans une époque, dans un champ, dans un courant de pensée intellectuelle, dans un moment aussi, la science et la philosophie ont quand même plus à voir que c'est le cas aujourd'hui. Mm. Et ça nous ramène aussi à des choses qui, moi, me passionnent aussi.
C'est naïf, mais c'est radical. Oui, mais... Voilà, elle dit que le but de l'homme, c'est la recherche de la vérité. Oui. Point barre, stop. Oui. Donc faut comme radicalité, on fait difficilement mieux.
Comme dirait les...
Non, est-ce que vous disiez comme pour une personne qui n'aurait jamais lu Simone Weil, je trouve que c'est une très belle approche.
À offrir.
Dans un tout petit format, qui est un livre assez agréable d'ailleurs, assez beau.
Oui, c'est beau et ça coûte 6 euros.
Oui, ben, pourquoi s'en priver ?
Vraiment, pourquoi s'en priver ? C'est pourquoi aussi il est important que nous parlions de toutes sortes d'éditions de poche, parce que là, en l'occurrence, c'est un texte évidemment un peu plus ardu que certains dont nous avons parlé précédemment. La personne est le sacré, donc dans la petite bibliothèque Rivage Poche. Et puis, pour poursuivre la réflexion, il y a une conférence au Collège de France qui aura lieu le 13 juin, qui sera tenue par Catherine Labrus-Rioux, qui est professeure émérite à l'université Panthéon-Sorbonne. Et la thématique de cette conférence, c'est « Figure juridique de la personne, lire aujourd'hui la personne et le sacré ». Donc on vous trouvera tous les deux sur les premiers rangs de ce Collège de France le 13 juin. Ce sera à 14h. Et avant de conclure tout à fait cette émission et cette semaine, le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu d'hier au soir pour en connaître la réponse, et c'est celui qui nous l'a posé, cette question qui va nous en donner la réponse, c'est Boris Pinault qui est avec nous ce soir. Question-réponse, Boris.
La question était: dans quelle université Frédéric Weizmann s'est-il immergé pendant plusieurs mois pour réaliser un documentaire de plus de 4 heures? Et la réponse est l'université de Berkeley.
Le film s'appelle At Berkeley, et vraiment, il faut absolument le voir, le revoir, sur la question de la pensée en action, c'est un film absolument merveilleux. Ce soir, nous faisons gagner des places pour le spectacle Boom Buddies de Doris Ullich. Place à gagner pour la représentation de vendredi 12 mai à 21h. Ce sera au Nouveau Théâtre de Montreuil. Et c'est dans le cadre des rencontres internationales chorégraphiques de Seine-Saint-Denis. Quelle est la question, Boris ?
À quel grand concours de danse les rencontres internationales chorégraphiques de Seine-Saint-Denis ont-elles succédé ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Vous pouvez également réécouter ou podcaster nos émissions. On vous donne rendez-vous lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant. Nous serons en compagnie de Fabienne Pascaud et Philippe Chevillé. À notre affiche, La résistible ascension d'Arturo Huy, de Bertolt Brecht, mise en scène par Katharina Thalbach, c'est à la Comédie Française. Les peintres au charbon de Lee Hall, mise en scène de Marc Dalva au Théâtre 13. On évoquera aussi plus rapidement « Votre maman » de Jean-Claude Grimbert, mise en scène Charles Todgeman au Théâtre de l'Atelier. Le programme « Notre cœur » au Théâtre de la Bastille. Et puis Boris Pinault passera un coup de fil à Zad Moultaka, compositeur et plasticien, pour sa nouvelle création à l'Arsenal de Metz. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture à 22h15. Les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction. Mmh.